bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info, le dernier du mois de mars, du lundi 31 mars 2014. Avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour aborder toutes sortes d'actualités, l'international en particulier, mais peut-être un mot sur l'actualité nationale quand même, Robert.
Pardon, tu...
Un mot sur l'actualité nationale, je disais.
Oui, enfin, si on veut effectivement jouer les marchands de scoop, pas de soupe, de scoop, on vient d'apprendre que Jean-Marc Ayrault avait remis sa démission à François, Hollande. François Ier de France. Et que François Hollande va donc s'exprimer tout à l'heure, à 20h. On a dit sur toutes les chaînes qu'il voudrait bien l'accepter. Alors il est humble et modeste. Et que, alors, dans les couloirs, alors c'est plus ou moins officieux, plus ou moins officiel, on n'en sait rien. On dit déjà que c'est Manuel Valls qui prendrait la tête du gouvernement. Je voulais faire une petite... revenir, on y reviendra d'ailleurs longuement sur les résultats électoraux, sur, pas tellement sur les résultats, mais surtout les conséquences de ces résultats, avec une petite note d'humour par rapport aux quelques rares villes gagnées par les socialistes ou le regroupement de gauche. Alors il y a donc Avignon, et Avignon, ben c'est la cité des papes. Alors les papes de leur caveau sont montés à l'assaut pour sauver le festival d'ailleurs. Tiens, curieusement, sauver le festival. Et personnellement, alors je craignais de ne plus pouvoir y aller. Personnellement, je retournerai au festival culturel d'Avignon.
Vous étiez au moins deux.
Oui. Autre grande victoire de la gauche, socialiste et autres, c'est Lourdes. Alors là donc, c'est l'image est forte. La Vierge Marie est venue au secours. Alors ça, c'est pas pour la, c'est pour le côté goupillon. Alors il y a aussi un côté sabre. Alors les sabreurs, eh bien c'est les braves poilus de Verdun qui se sont réveillés d'un coup et ils ont décidé de balancer la droite à la poubelle et puis de mettre la gauche au pouvoir à Verdun. Et puis aussi, il y avait les cavaliers de Saumur. Eux aussi, les cavaliers de Saumur, ils ont piétiné la droite pour installer à sa place pour installer un ensemble dit de gauche. Voilà, c'est une image assez drôle et sans conséquence, hélas, par rapport à la catastrophe.
Oh, on essaiera d'avoir des propos un peu plus sérieux tout à l'heure.
Oui.
Allez, rubrique internationale tout d'abord de ce Canu Info avec différents sujets qu'on va traiter quand même. On peut peut-être commencer par l'Ukraine. Enfin, c'est un peu un ensemble puisque les Américains, comme d'habitude, sont impliqués dans tout, les États-Unis, j'entends. L'Ukraine, donc, Barack a rencontre entre Lavrov et Kerry. Ça, c'était dimanche soir, une rencontre quasiment improvisée, ce qui n'a pas manqué de surprendre.
À Paris, d'ailleurs.
À Paris,
on a fait une concession à Paris et on pense que c'est Fabius qui portait les cafés.
Ah, il faisait la soubrette. Pendant ce temps-là, sur le terrain, 40 000 militaires, 30 000, 40 000, on peut discuter, massés à la frontière russo-ukrainienne avec cette menace que certains estiment être forte d'une invasion des Russes, on va dire ça comme ça, sur les territoires russophones qui sont sur la partie à l'est de l'Ukraine. Pour le moment, il n'y a rien de fait, mais C'est sûrement pour discuter de tout ça que les négociations vont si bon train dans les états-majors, quoi. Pour les Russes, eux, ils défendent leur position, que c'est toujours Kiev où il y a eu un coup d'état fasciste et qu'on a donc tout lieu à la fois de se méfier de ce pouvoir et de prendre des dispositions pour qu'il ne fasse pas de mauvais coups dans les zones où les Russes sont bien implantés, quoi. Donc des discussions qui se déroulent entre Russes et Américains, et curieusement, malgré le mal qu'ils se donnent et même la bourse qu'ils délient un tout petit peu, les Européens en sont pratiquement exclus, ce qui agace aussi certains diplomates observateurs de trouver que c'est quand même un territoire qui est plus proche de l'Europe que des États-Unis, et on comprend pas très bien pourquoi c'est les États-Unis qui se posent en interlocuteur exclusif des Russes dans cette affaire. Enfin, eux le comprennent peut-être mieux que nous. Et puis Medvedev arrive ce jour à Kiev, je crois, pour négocier aussi avec les autorités ukrainiennes. Donc on voit un méli-mélo de choses assez différentes. Bon, on peut revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière, les atouts cachés et les atouts dévoilés dans cette affaire et dans cette négociation qui peuvent justifier les positions, et à la fois sur le terrain et dans la diplomatie des uns et des autres. Je te laisse commenter aussi un peu la situation.
Oui, déjà, on voit comment la diplomatie russe ménage ses effets et en même temps se montre très diplomate et habile, puisque dans un premier temps, il y a eu des contacts, mais c'était vraiment des émissaires avec Kiev. Et puis ensuite, c'est Lavrov, donc on est monté d'un étage. C'est Lavrov lui-même qui est allé à Kiev, je ne sais plus si c'est à Kiev même qu'il a rencontré du monde, mais des représentants du gouvernement de Kiev. Et puis aujourd'hui, on monte encore un étage et c'est Medvedev, chef du gouvernement russe, qui est à Kiev. L'intention est évidente de dire on reconnaît naturellement, on n'en pense pas moins, mais on reconnaît, on est devant le fait accompli, on reconnaît ce gouvernement, même s'il est issu de conditions qu'on dénonce comme non démocratiques ou fascistes. Donc effectivement, tout ça, c'est... on s'imagine pas quand même que Poutine va aller à Kiev dans les prochains jours, mais on voit bien comment les choses se mettent en place. Et ce qui se disait, ce qui se discutait à Paris, qui est important, on ne sait pas trop. Enfin, à Kiev et surtout à Lviv, la partie ouest de l'Ukraine, on n'est pas d'accord avec ça. Mais il y a une proposition sur la table qui est de créer une sorte d'État fédéral sous l'autorité de Kiev, naturellement, du gouvernement. Pas question de démembrer l'Ukraine, mais un État fédéral qui ferait qu'effectivement il y aurait une reconnaissance de toute la région Est, Donbass. Une région d'ailleurs qui est un peu le berceau industriel et qui est en lien direct aussi bien sur la production que sur l'écoulement des industries minières et métallurgiques, parce que les grands oligarques, ceux d'hier au pouvoir chassés et ceux d'aujourd'hui qui ont pris la place, eh bien, ils sont tous de cette région-là. Et c'est pas parce qu'ils sont installés à Kiev qu'ils n'ont pas effectivement leurs intérêts économiques et financiers dans la partie Est et en relation étroite, commerciale et industrielle avec la Russie. Donc, on voit bien que cette idée de faire une fédération de l'Ukraine avec un pouvoir central, certes, et donc de donner cette possibilité donc aux régions russophones de s'exprimer à l'intérieur d'un ensemble, mais en gardant une relative liberté par rapport aux voisins russes. Alors on ne va pas jusqu'à dire que du coup Il n'est pas question que la Crimée, à ce moment-là, fasse demi-tour et rentre dans cette fédération, mais on penserait très bien qu'ensuite les liens se renoueraient entre la Crimée devenue russe et cet ensemble fédéral ukrainien. Les Russes poussent à fond là-dessus. Bon, les Américains sont à la limite qui sont des gens pragmatiques les équipes autour d'Obama, c'est pas tout à fait les mêmes que celles autour des Bush. C'est pas la question du bien contre le mal. Pour eux, leur vision pragmatique, c'est que l'économie fonctionne, que les échanges fonctionnent, et que à partir de là, et bien effectivement, on peut effectivement ne pas faire comme les Européens, qui eux mettent en avant pour l'essentiel les aspects idéologiques, surtout côté français, un peu moins côté allemand, parce que les Allemands ont des intérêts très forts à la fois avec la Russie et à travers et avec l'Ukraine, et puis il y a tout le passé de l'Allemagne de l'Est qui compte et avec lequel les Allemands sont obligés de tenir compte. Voilà, donc ce que tu disais aussi, c'est... Alors, il y aurait annoncé déjà le retrait, enfin, disons, de la première ligne de frontière, le retrait d'une partie des troupes russes, qui sont donc à la frontière de l'Ukraine. D'une part, maintenant, les observateurs, les officiels et neutres disent qu'il n'y en a jamais eu 100 000 comme c'était Kiev qui le déclarait, mais c'était l'intérêt de Kiev de le déclarer, la guerre va nous tomber dessus, etc. En fait, ça n'aurait pas dépassé 30 ou 40 000 soldats sur cette frontière. Voilà. Je ne sais pas ce que... Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Les prochaines étapes, eh bien, il semble que c'est un peu ça, en douceur, une espèce de reconnaissance générale de la situation et surtout quand même, et ce qui est essentiel, c'est que s'éloigne toute perspective de guerre. Ça semble acquis. Il faudrait vraiment des complications, des provocations énormes pour qui ne serait pas une guerre mondiale, mais qui serait même une petite guerre locale, régionale, intervienne. Elle pourrait intervenir de la part des pays voisins qui regardent tout ça d'un mauvais œil, que ce soit là, surtout les Polonais. Mais bon, les Polonais aussi maintenant, ils ont leurs oligarques qui tiennent une partie du pouvoir. Et visiblement, on voit bien que les oligarques n'ont pas... c'est un peu comme les mafieux, s'ils ont des comptes à régler, ils le règlent entre eux, mais ils ne vont pas jusqu'à vouloir faire la guerre.
Voilà, on va peut-être aborder un autre sujet, parce qu'on a quand même pas mal de choses à évoquer. On va dire un mot de la nomination d'un nouveau secrétaire général à l'OTAN. Alors bon, ça ne change pas grand-chose. Ce nouveau s'appelle Jens Stoltenberg. Il a un passé de 10 ans comme premier ministre norvégien.
Mais de gauche, social-démocrate.
Oui.
Rasmussen était de droite, était un parti. Mais comme tu dis, ça ne changera sans doute pas.
C'est des hommes qui sont forcément à la solde des visées américaines sur le monde. Et donc les choses dont il va devoir s'occuper, ben forcément, c'est l'Ukraine dont on parlait, c'est l'Afghanistan. Et voilà, et un de ses soucis, ça va être comment persuader les Européens de cracher au bassinet de la dépense militaire afin de maintenir le niveau d'armement de l'OTAN et de minimiser les dépenses américaines par rapport au total, quoi. Voilà.
Et peut-être que Rasmussen, qui ne sera plus protégé par son immunité de secrétaire général de l'OTAN, pourra être mis devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, parce qu'il est un de ceux qui ont poussé fort pour que nos braves canons et avions aillent écraser Kadhafi et d'autres.
Voilà, il faut aussi parler de la Turquie, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des élections municipales. Là-bas, ils votent mieux, hein, ils sont 90% de votants. Et la Turquie, donc, avait des élections qui, chez eux aussi, avaient un peu valeur de test national pour Erdogan, donc, dont on pouvait penser, après à la fois les forfaitures dont il était accusé en matière de corruption, lui, sa famille, et puis l'opposition assez forte, assez violente qu'il y a eu l'année dernière, hein, avec ces affrontements dans la rue et ces milliers de manifestants qui ont longuement occupé des places. Donc 53 millions d'électeurs, et bizarrement, eh ben, Erdogan et son parti, l'AKP, sortent vainqueurs avec 45% des voix. Donc vous voyez, il n'y a pas que chez nous que les gens qui sont accusés de corruption ne découragent pas les électeurs pour les remettre en place. Du coup, ben, Erdogan se sent très à l'aise et menace de se venger de ceux qui se sont opposés à lui. Enfin, il déclare aussi carrément qu'il espère bien, en 2023, être toujours là pour commémorer le centenaire de la République turque. Alors on attend le suffrage universel des élections présidentielles qui doit suivre ces élections, où on peut penser qu'il se présentera et peut-être même qu'il sera élu.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que finalement, il y a eu le mouvement de la rue, qui était un mouvement populaire, qui apparaît bien dans ces élections, sous réserve que les élections étaient équitables et dans de bonnes conditions démocratiques. Mais c'est comme Kiev, quoi. C'est des mouvements populaires, mais ils ne représentent que des minorités, finalement, parce que le pouvoir, il est économique, et de plus en plus, c'est les grands enjeux capitalisme sous la pression des grands instituts financiers ou bancaires internationaux que se décide le sort des peuples actuellement. Et Erdogan, qui avait comme ennemi principal un groupe islamiste musulman, on dit plutôt musulman quand on est en Turquie, qui était plus enfin, sur le plan de l'idéologie islamisante et plus rigoriste que Erdogan. Erdogan faisait presque figure d'un libéral islamiste au pouvoir. Et donc c'est ce groupe-là dont il dit que c'est lui qui lui a causé le plus de problèmes en dénonçant ce qui serait la corruption de son équipe au pouvoir, à Erdogan. Mais le dirigeant de ce groupe vit grassement aux États-Unis. C'est un millionnaire aussi, alors un milliardaire. Et c'était l'ennemi principal. Alors, bon, on peut comprendre que finalement les élections soient déroulées finalement en faveur d'Erdogan.
Voilà, tu avais un autre sujet ou j'en lance un?
On peut rester dans la zone des milliardaires qui s'installent au pouvoir un peu partout, surtout quand on a été dans l'ex-Union soviétique. Et samedi, Slovaquie, hein, la rupture intervenue en Tchécoslovaquie, les Slovaques d'un côté, les Tchèques de l'autre, et les Slovaques, c'est Bratislava. Et donc, il y avait le deuxième tour de l'élection présidentielle, et tout le monde s'attendait à ce que le social-démocrate Fico, qui est au gouvernement, qui paraît un brave type d'ailleurs, qui lui n'est pas un millionnaire, qui ne cherche pas à s'enrichir, et puis qui essaye de faire que l'austérité soit pas trop violente, était arrivé en tête devant un milliardaire, un oligarque qui s'appelle Kishka. Bon, on les appelle des oligarques parce qu'ils ont tous bâti leur fortune sur les dépouilles de ce qu'était le système économique et industriel et financier des pays ex-soviétiques. Donc ce Kiska était donc en Slovaquie, où lui, après avoir joué au banquier généreux, il était devenu un distributeur d'argent. Mais c'est presque comme ça, hein, la charité. Et finalement, ça a payé, parce qu'au deuxième tour, c'est ce milliardaire, Kiska, qui, déjouant pour ainsi dire tous les pronostics, a gagné l'élection présidentielle. Et bien, effectivement, on voit bien que ces peuples, alors évidemment, on peut dire que c'est du court terme, c'est peut-être du sous-politique, mais n'empêche que les gens, ils regardent, ils se disent, un milliardaire, il va, en plus qu'il a de bonnes relations aux États-Unis, tout ça, il va sans doute nous amener des choses intéressantes. Et puis, l'autre, il n'avait pas grand-chose à proposer, sinon à leur dire, je vais essayer de réduire les dommages que provoque l'austérité. Ça n'a pas marché pour lui.
Puisqu'on était en Slovaquie, on va se déplacer un peu, mais pas beaucoup, pour aller en Italie voir les premières actions de Renzi, qui attaque un gros morceau. Là, il a carrément entamé, il l'avait un peu annoncé dans son programme, si on peut parler ainsi, la dissolution, la suppression du Sénat italien. Vous imaginez les remous que ça peut créer, avec toutes les rentes de situation associées. Au titre que le Sénat en Italie fait double emploi avec l'autre chambre, et que en plus donc les gens sont élus par la représentation populaire, et lui propose de faire un Sénat réduit avec des gens qui seraient ce qu'on appellerait chez nous les responsables des régions, plus un certain nombre de membres désignés par le pouvoir, les institutions. Alors, il y arrivera, il n'y arrivera pas, parce qu'il faut déjà que les sénateurs actuels votent leur sabordage, ce qui n'est pas gagné d'avance. Et donc, c'est dans l'idée de simplifier la vie politique italienne. Comme c'est un homme jeune, plein d'énergie, plein d'ambition et d'avenir, ça va être pour lui un test. S'il se casse les dents là-dessus, peut-être il se recyclera dans une gouvernance plus pépère, ou alors il disparaîtra dans les oubliettes de l'histoire. Mais ça va prendre du temps, parce que cette modification demande des modifications législatives. Même s'il y arrive, il en a au moins pour un an.
À propos des dossiers qu'on vient d'évoquer, notamment concernant aussi bien l'Ukraine que la Slovaquie, on peut conseiller le dernier numéro du Monde diplomatique, c'est le numéro d'avril. Alors, il est vraiment à lire, parce que c'est formidable. Il y a plusieurs pages, je cite un titre comme ça, Ukraine, d'une oligarchie à l'autre, avec une carte, très 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 bon article qui explique bien. Il y a aussi un article sur l'obsession anti-russe. On trouve également sur le positionnement de plus en plus atlantiste de la France. Ça avait commencé sous Mitterrand, et ça se poursuit avec Hollande. Sur également les tendances nationales conservatrices dans les pays de l'Est, donc de l'Union soviétique d'avant. Et notamment, là ici, c'est à propos de la Hongrie, un article également d'une très grande qualité. Je citerai un article sur l'Algérie aussi, et je ne sais pas si on a... Moi, je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, tu as peut-être prévu d'en parler, mais tout ça pour dire, il faut absolument acheter le dernier numéro.
Achetez-le ou volez-le, comme disait Harakiri, parce que les gens vont penser que tu touches un chèque pour faire une pub pareille.
Ah oui, oui, il faut éviter de le voler, parce qu'ils ont déjà du mal à boucler les finances. Mais
bon, le Monde, Télérama, c'est un grand groupe bancaire maintenant. On ne va pas pleurer sur leur sort.
Ah oui, oui, non, mais eux, ils ont une gestion à part. Ils tiennent absolument à leur indépendance. Et donc, ils savent que du jour au lendemain, le Monde, Télérama et les autres peuvent leur mettre la corde au cou.
Bon, on change de sujet. On dit quelques mots de la Palestine et d'Israël, où il y a toujours cette dernière phase du round de négociations en cours, enfin du cycle de négociations, qui au départ prévoyait la libération de 104 prisonniers. Il en reste donc 26 qui doivent être libérés, mais ça coince parce que ça coince du côté israélien, ça coince un peu aussi du côté palestinien, puisque les Israéliens voudraient que pour... ça n'a pas de rapport, mais c'est comme ça, voudraient que pour terminer ce cycle de négociation, les Palestiniens s'engagent à en entamer un autre pour une nouvelle période. Et Abbas dit qu'il n'y a pas de rapport entre les deux choses, donc voilà. 26 détenus devraient être libérés, dont certains des Arabes israéliens, ce qui engendre aussi des contestations en Israël, puisqu'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est des criminels de notre population, si on les libère, ils vont venir habiter chez eux », autrement dit en Israël, évidemment, et ça, il ne faut pas le faire. Alors, pas mal de va-et-vient là-autour, et puis les Américains qui essaient de jouer les messieurs bons offices en proposant, pour arranger un peu les choses, si on peut dire, de libérer un espion qu'ils ont enfermé depuis une vingtaine d'années, un espion israélien, qui se propose d'élargir pour que le fin de ce cycle de négociation se termine correctement. Voilà, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ?
Non, c'est...
La Syrie, on a cette bonne nouvelle pour deux journalistes espagnols qui ont été libérés. Alors, ils avaient été enlevés à la frontière turque, ils ont été libérés en Turquie. Ça leur fait quand même 6 mois qu'ils étaient par un groupe, dit-on, proche d'Al-Qaïda. Alors, dans quelles conditions ont-ils été libérés ? Diplomatie, finance, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que les 4 Français qui ont été enlevés, eux, au mois de juin 2013, semblent toujours être retenus. En tous les cas, on est sans nouvelles. Et puis, sur un plan plus diplomatico-militaire, les observateurs font valoir que le désarmement chimique sur lequel la Syrie avait accepté un calendrier, eh ben, ce calendrier a du retard. Les Syriens disent que c'est à cause des combats qui ne permettent pas de manœuvrer et d'évacuer les produits dans des conditions correctes. Les Occidentaux qui surveillent le désarmement trouvent que ça traîne des pieds par mauvaise volonté. Voilà.
Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être évident hein, d'aller chercher ça quand une partie du territoire est pas d'une manière hégémonique, mais avec des endroits où, qui sont sous contrôle de groupes dont l'autorité elle-même d'ailleurs change souvent. Hein. On a vu comment il y avait une lutte maintenant interne entre l'armée libre et puis les groupes les plus violents des djihadistes.
Voilà, peut-être un mot de la Birmanie où il y a ce recensement, c'est quand même le premier depuis 30 ans, donc ça c'est une bonne nouvelle que le pays arrive à la fois pour des raisons électorales et autres à connaître sa population et à pouvoir la chiffrer un peu, mais ça engendre pas mal de remous et des manifestations même parce que comme il y a des minorités, des communautés minoritaires, et elles craignent que le recensement soit un moyen de les minorer encore davantage en pensant que les pouvoirs publics vont manipuler les chiffres. Et donc, ça crée de l'énervement. Et puis, les bouddhistes aussi, extrémistes, manifestent contre ce recensement parce qu'ils redoutent de leur côté que les musulmans apparaissent plus nombreux qu'ils ne souhaiteraient les voir apparaître. Bref, ça ne se passe pas dans la sérénité la plus grande. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir cette normalisation, cette tentative de normalisation étatique en Birmanie. Voilà, tu avais d'autres infos internationales, Romain ?
Non,
on peut dire un mot du GIEC aussi, qui se réunit au Japon et qui lance des cris d'alarme. Bon, on est un peu habitué, alors à force de crier au loup, personne ne croit plus au loup. Peut-être que quand le loup va arriver, ben voilà quoi. Il lance un cri d'alarme sur les problèmes environnementaux, l'accès à l'eau, les déplacements de population liés aux modifications climatiques qui pourraient, selon eux, entraîner des modifications irréversibles avec les problèmes qu'on connaît déjà, hein, les cataclysmes, les inondations, la sécheresse de notre côté. Donc, pour eux, c'est presque l'alimentation de l'humanité qui est un peu en jeu et dont ils aimeraient que les gouvernements des différents pays se préoccupent davantage dans une perspective écologique.
Ce qui est le cas, mais dans des dimensions qui ne sont pas à la hauteur du danger, c'est certain. C'est vrai qu'on fait des rencontres internationales, de Kyoto en Kyoto, il y en a partout, et des petits pourcentages d'annoncés sur la limitation de CO2, d'effet de serre et tout ça, mais avec des chiffres et surtout des pays qui s'engagent, mais dont il n'y a aucune autorité, on va dire, indépendante, qui peut surveiller réellement si les engagements, les petits engagements, sont tenus.
Allez, pause musicale, on va la faire avec Jules Verne, qui a écrit un texte, Le cabinet du 29 octobre, mis en musique et interprété par Serge Kerval. On va la dédier à M. Erdogan, donc, qui vient de se faire réélire malgré toutes les casseroles qu'il promène. On pourrait tout aussi bien la dédier à d'autres dirigeants français qui aussi traînent pas mal de casseroles, même quand ils ont atteint aux plus hautes fonctions de l'État.
En avant, la corruption ! Un citoyen disait tout triste, la France marche aux attentats. Qui s'en ferait l'apologiste, peindrait un bagne de forçat. Mais que le cabinet on peigne ainsi par imitation. Qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. Les places d'honneur et de gloire ne sont point aux plus diligents. Et l'on circonvient la victoire dans quelques sacs d'or et d'argent. Que le mauvais Richard se saigne pour obtenir l'élection. Qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. À chaque moment on dénonce des vols, injustice, forfait. Le pouvoir pour toute réponse se retient fermer les volets. Qu'ainsi la lumière il éteigne et sa participation. Qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. Mais pour apaiser la tempête que le ministère entêté, n'ordonne-t-il la moindre enquête pour mettre au jour la vérité? Mais s'il craint qu'elle ne l'atteigne jusqu'en sa prostitution, qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. Mais ces trois procès de finance, ne les a-t-il donc poursuivis que parce qu'il savait d'avance qu'il n'y serait pas compromis? S'il désire qu'on lui dépeigne sa future punition, qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. Pour mieux cacher son injustice, pour mieux déguiser sa noirceur, si l'on en croit son frontispice, il est d'une entière blancheur. Mais que par malheur il déteigne lorsque pleut l'imprécation, qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption. Mais la France marche au naufrage sous ce ministère de brigands. On étouffe la voix du sage sans jamais relever son gant. Ah bah, que la France se plaigne en voyant sa submersion. Qu'importe le cabinet, règne en avant la corruption.
Jules Verne, eh oui, un Nantais, figurez-vous. Les Nantais sont à l'honneur ce soir. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 31 mars 2014 avec Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios. On arrive à notre rubrique nationale qu'on va peut-être ouvrir sur les élections municipales et leurs résultats, mais surtout sur une vision un petit peu d'ensemble des résultats et de ce qu'on peut en dire. Ben déjà, tout le monde, il est content. Hein. Nathalie, elle est contente. Gégé, il est content. Les Martines, elles sont contentes. Pas toutes, quand même. Hein. La Marine, elle est contente. Le Jean-François, il est content. L'Anne, elle est contente. Le Eric est content. Le François, François est content, mais pas l'autre. Il n'y a que l'électeur de base, le couillon d'électeur de base et Jean-Luc, sans doute, qui, eux, ne sont pas très contents et pensent que rien ne va s'améliorer avec tous ces contents de leurs résultats. Au-delà de ces quelques évocations de résultats personnels positifs pour beaucoup, il y a quand même une grande déculottée des socialistes. Les gens n'ont pas voté. S'ils ont voté municipal, ils ont aussi voté national. Il s'agissait de valider, d'encourager le gouvernement à continuer dans ce sens-là ou de manifester son opposition à tout ce qui a été fait. On avait déjà connu le phénomène en 2008. C'était en sens inverse contre la droite. C'est comme ça que la gauche avait récupéré pas mal de villes. Là, ça a fonctionné dans l'autre sens et gravement, puisque au début, le PS disait ouais, « si on perd 30 villes, ça ira, c'est pas dramatique. 60, 90, ah là, ce serait grave, bien embêtant. » Pas de peau, et on arrive ce soir, ils en ont perdu 142, des villes de plus de 9-10 000 habitants. Autrement dit, c'est une énorme défaite qui impose une révision des choses, mais la révision risque bien d'être seulement en parole et pas tellement en acte. Enfin, on peut toujours changer de guignol à la tête de l'État. Apparemment, c'est ce qu'on est en train de faire, bien qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est si le démissionnaire ne va pas être mis en selle avec une nouvelle équipe. C'est encore une manipulation qui peut exister. Enfin, on reviendra là-dessus. 49,5% de voix pour la droite, qui a 60% des communes, 40,5% pour la gauche, donc visiblement les électeurs ont désavoué le gouvernement de gauche, soit ils ont désavoué, soit ils sont tellement déçus qu'ils n'ont pas été votés, puisqu'il y a quand même presque 40% d'abstention. Puis 6,8 pour le FN, ce qui arrive à leur offrir un certain nombre de villes dans des conditions, on ne va peut-être pas détailler, mais qui ne sont pas toujours très correctes. S'il n'y avait pas des triangulaires et des quadrangulaires, on aurait eu moins de victoires de ce parti extrémiste. Allez Robert, je te donne un petit peu la parole aussi. Même j'ai pas fini, mais on va y revenir.
Si je continue ton tour de France, t'as pas fait le tour de France. Non. Moi j'ai décidé qu'il y a une sorte, j'ai relevé comme une sorte de ligne Maginot à l'est du pays, parce que je vois.
C'est bien là qu'elle est.
Voilà, alors, ça part de Strasbourg, je parle des villes donc, qui ont résisté. Strasbourg, Dijon, Lyon, Grenoble, Briançon, Digne. Voilà, mais ça s'arrête là après, parce que là, après, on entre dans ce particularisme marseillais qui s'étend à toute l'Occitanie et qui produit les résultats que l'on sait. Et puis après, ben, évidemment, c'est le grand creux. Il y a bien Montpellier qui est resté à gauche, même si ça n'est plus le PS qui en a la maîtrise. Clermont-Ferrand qui a tenu, ça c'est pour le centre. Alors à l'ouest, il y a quelques villes comme Nantes, Rennes, Brest. C'est des villes importantes. Bon, évidemment, ça ne fait pas oublier que Toulouse, Saint-Étienne sont retournés à droite et ils y ont été par le passé. Donc on l'a dit, il y a Paris naturellement, et puis c'est tout. Et puis après, si, faut le bastion nordiste avec Lille. Lille est peut-être pourquoi ouais, pas. Ça peut être aussi oui. Dans la logique. Des vainqueurs, quand on fait un gouvernement, on pourrait penser que la maire de Lille pourrait devenir un personnage important. Elle a failli l'être, elle a été à la tête du PS, elle pourrait bien être à la tête d'un gouvernement, pourquoi pas, avec un positionnement que l'on dit généralement chez elle un peu plus à gauche, mais bon, on sait bien que au PS, ça ne veut pas dire grand-chose, qui est-ce qui est plus à gauche que d'autres.
Pas sûr qu'elle ait envie de se sacrifier pour Hollande. Hein.
Et puis, alors, j'avais relevé aussi cette espèce de d'événement majeur en Corse ou à Bastia. Alors, c'est un nom illustre qui a remporté l'élection. C'est pas le père, c'est pas Edmond, c'est le fils, c'est Gilles Simeoni, qui a gagné Bastia et qui a évincé, veut dire, le clan familial des Zuccarelli, bon, qui était de gauche, et Gilles Simeoni, il était une des branches qui se positionne même au-delà de l'autonomie, qui se positionne dans le domaine plutôt des indépendantistes. Alors ça, c'était un coup de tonnerre à Bastia, qui donc est passé aux mains d'un indépendantiste modéré, diront certains.
Et les résultats du Front de Gauche, tu nous les donnes pas ?
Front de Gauche, non.
Même, Aubervilliers, Montreuil...
Oui, enfin c'est bon. Alors, faut rappeler les conditions de ce qu'on appelle Front de Gauche. Hein. Front de Gauche, est-ce qu'on veut dire ceux qui étaient sur la base de départ, à savoir autonomie des listes, et pas de négociation avec les appareils. On a vu qu'au deuxième tour, plus ou moins, il y a eu des négociations d'appareils avec des intégrations de listes, ce qui fait que la notion de Front de Gauche, ben, elle a toute sa force, dans la mesure où c'était souvent des communistes ou des gens de parti de gauche, ou des Verts, finalement, qui se sont inscrits dans cette logique qu'avait mis en place le Front de Gauche, et qui ont fait qu'effectivement, un certain nombre de villes ont été gagnées grâce à ce positionnement très fort du Front de Gauche.
Le premier arrondissement de Lyon, alors. Hein,
voilà, alors le premier arrondissement de Lyon, Front de Gauche, écologiste, au deuxième tour, hein, c'est ça. J'ai deux déclarations, je ne vais pas les lire en entier parce que ça serait trop long, mais quelques phrases, aussi bien du Parti communiste que effectivement du Parti de gauche. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui dans les documents de déclaration de la troisième composante du Front de Gauche, c'est-à-dire d'ensemble. Ensemble, dont on rappelle qu'il se décline ainsi, mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire. Donc la troisième composante du Front de Gauche, semble-t-il, n'a pas encore publié de communiqué, sauf que je n'en ai pas, moi, connaissance. Je retiens simplement, c'est pour ce qui concerne le PCF. Le bilan à tirer, je le lis, hein, le bilan à tirer à chaud de ces élections municipales et l'urgence absolue de changer de politique, à commencer par le pacte entre guillemets, irresponsabilité, hein, bon, on a compris, dicté par le MEDEF et la Commission européenne. Ce pacte est totalement étranger aux valeurs de la gauche et du monde du travail. Il est l'expression de la dérive politique du gouvernement qui conduit au résultat de ce scrutin municipal. Sans changement politique, le remaniement ministériel sera totalement hors sujet pour le peuple et le pays. Pour le parti de gauche, alors quelques images fortes. La gauche qui s'est opposée ou a contesté la politique du gouvernement de façon autonome ne subit pas cette défaite. Mieux, quand elle est unie sur un programme anti-austérité, elle remporte de belles victoires. Grenoble en est l'exemple éclatant avec la liste Grenoble, une ville pour tous, menée par Éric Piolle, qui est un EELV, donc un vert, et Elisa Martin, qui est partie de gauche. Ce succès, malgré le maintien du socialiste Safar, est historique. Il démontre qu'ensemble, nous pouvons réellement être majoritaires à gauche. C'est un espoir formidable pour l'avenir. À Lyon 1, la victoire de la dissidente, et tu en as parlé, à Lyon 1, la victoire de la dissidente socialiste alliée au Front de Gauche, Nathalie Perrin-Gilbert, conforte cette analyse. Enfin, la plupart des listes du Front de Gauche qui se sont maintenues égalent ou augmentent leur score du premier tour, comme Nîmes, ou l'alliance avec les Verts, je lis encore un bout de phrase, a bien fonctionné. C'est à partir de ce vote de résistance que nous voulons œuvrer à la refondation de la gauche sur le partage des richesses, la relance de l'activité par l'écologie, la désobéissance à l'Union européenne et la 6e République. Voilà pour ce qui sont des déclarations de 2 sur 3 des composantes du Front de Gauche.
Alors pour ce qui est des résultats comme ça, donc en région lyonnaise, Vénissieux reste, maintien du PC dans cette ville. Par contre, Vaux-en-Velin, il y a une espèce de coup fourré. Le PS a réussi à piquer la mairie au PC de Genin. Ce que je trouve un peu énorme quand même, c'est que cette dame Geoffroy du PS, qui a voté il y a quelques mois le non-cumul des mandats, 6 mois après, sans sourciller, elle vient prendre un deuxième mandat et elle devient cumulante. Avec évidemment l'argument splendide que le non-cumul des mandats, on doit le mettre en service en 2017 ou 2018, je ne sais pas trop. Mais enfin quand même, un peu de décence. Comment voulez-vous que les électeurs aient la moindre confiance dans des gens qui votent quelque chose à l'Assemblée et qui s'assoient dessus 6 mois après quand il s'agit de se faire élire comme maire. Après, il y a les ambiguïtés, évidemment.
Oui. Vous, en Velin, avez déjà arrosi pas mal depuis quelques années.
Oui, oui, le PS avait entrepris de le conquérir. Ils y sont arrivés.
Après l'époque, je ne me rappelle plus de son nom, là, du communiste, d'ailleurs, qui lui-même, dans ses dernières élections, on faisait des listes où même il ne se déclarait même plus comme membre du Parti communiste.
Bon, autrement, Givor est resté au PC, mais d'autres villes comme Grigny ont basculé à droite. La défaite n'est pas du tout totale pour les mairies communistes, mais elles en ont perdu un certain nombre quand même, quoi.
Oui, comme en région parisienne, hein, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, hein, il y en a qui ont été perdus.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors la prochaine échéance, c'est les européennes, c'est le 25 mai. Alors le gag, c'est que c'est le jour de la fête des maires. Vous l'écrivez comme vous voulez. Il y en a qui vont être à la fête, effectivement. C'est ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que ces résultats vont entraîner des modifications. Même quand les mairies sont gardées comme à Lyon, les grandes métropoles vont presque toutes passer à droite. Parce que même Lyon et Paris, malgré les victoires aux municipales, ne garantissent pas à l'heure qu'il est qu'elles seront dirigées par la gauche. Alors c'est marrant parce que le PS a voulu mettre en place ses institutions,
oui,
et ça se retourne contre lui à la première élection. C'est assez curieux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire?
Je ne sais pas si le gouvernement futur et Hollande peuvent... ils peuvent toujours...
remettre en cause,
oui. Freiner le mouvement,
ça va faire un peu tâche. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Oui, moi je proposerais bien un remaniement à Hollande, s'il veut continuer avec son pacte d'irresponsabilité, là. Il regroupe les ministères de Montebourg et de Moscovici, et il les donne tous les deux à Gattaz. Et là, je pense qu'il sera dans la droite ligne de sa politique. Au moins, ce sera clair.
Oui.
Oui, pour la suite, c'est le Sénat en question. Oui, parce qu'avec ce raz-de-marée de droite, le Sénat qui était en train de passer à gauche, voire qu'on considérait pratiquement comme acquis à la gauche, va sûrement repasser à droite. Et ça va avoir un certain nombre de conséquences plutôt fâcheuses pour les projets législatifs à venir, quoi. Ah, il aura fait du beau travail, Hollande, hein, force de trahir les promesses électorales qu'il avait faites. Pour une fois, on peut dire qu'on ne va pas s'en féliciter, mais il ne l'a pas volé.
Oui, et en plus, bon, finalement, il a distribué quelques cacahuètes pour laisser croire que finalement, il avait bien, lui, contrairement aux pays voisins, notamment aux pays voisins du Sud, il avait su résister. Il n'avait pas pu tout empêcher, mais il avait résisté un petit peu. Bon, et ben, je crois que c'est pas ça qu'il avait promis, et c'est pas ça qui était attendu de lui.
Mais la vie continue et il va se passer encore pas mal de choses. D'ailleurs, dans 5 minutes, on saura peut-être qui on a comme nouveau Premier ministre. Si c'est Valls, je suis pas sûr que ça arrange beaucoup les choses pour nous, pour la population. Allez, on parle d'autre chose un petit peu.
Oui, il y avait la semaine dernière notamment, ben voilà, on parlait du programme de Hollande qu'il n'avait pas osé appliquer dans sa version sociale, et notamment en matière d'emploi et de maîtrise de la finance, eh bien, il y a la petite audace qu'il avait manifestée en laissant passer ce texte sur Florange. Alors, de quoi s'agissait-il ? C'était simplement, par une loi, faire que les entreprises qui abandonnaient, c'est-à-dire viraient tout le monde, liquidaient des sites rentables, bien devaient ou trouver un repreneur ou payer des amendes fortes. Bon, ce sont des amendes, beaucoup de ces grosses entreprises, si on pense par exemple à ArcelorMittal, ça aurait été vraiment une goutte d'eau dans ses finances. Bon, toujours est-il que le Conseil constitutionnel a trouvé que c'était une véritable anticonstitutionnelle, une entrave à la libre...
À la propriété privée, tout simplement.
Oui, à la propriété privée, à l'exercice de la liberté d'entreprendre, les deux. Voilà, alors, c'était une loi d'une très grande modestie qui n'était même plus en rapport avec ce qu'avait été le premier projet déposé par des députés socialistes, qui avait été déjà amendé par le gouvernement et qui est retoqué par le Conseil constitutionnel. Ce qui prouve que, effectivement, le Hollande, il s'est dit, j'ai fait un discours, mais mon discours, il tient pas la route, sinon il faudrait que je fasse des réformes constitutionnelles, ou il faudrait effectivement que je modifie un certain nombre de choses pour faire passer, effectivement, que le rapport entre le capital et le travail change. Non, pas forcément, ça serait trop beau qu'ils deviennent favorables, majoritairement favorables au travail, mais au moins qu'ils soient rééquilibrés et qu'ils soient à égalité. Bon, ben, on le voit sur ce simple exemple c'est pas donné les moyens de mettre le début même d'une véritable réforme pour permettre à son âme d'année Montebourg de faire effectivement du redressement industriel.
On dira un mot de la grève de la SNCM à Marseille, hein, qui continue avec une menace de dépôt de bilan qu'on fait valoir sur les salariés qui, eux, argumentent que l'État est actionnaire à 30% via la caisse des dépôts et consignations. Et donc, l'affrontement n'est pas réglé. Il y a une menace de réquisition, mais les travailleurs ne semblent pas la redouter. En tous les cas, le conflit ne s'est pas réglé entre les deux tours des municipales. Puis il y a, c'est moins important, mais quand même, si ça a son importance, les égoutiers de Paris qui ont fait 10 jours de grève pour obtenir qu'il soit procédé à une expertise sur leur exposition à l'amiante, comme quoi pour obtenir des mesures qui défendent la santé des travailleurs, ce n'est jamais évident pour les patrons, même quand c'est des pouvoirs publics. Voilà, on arrive un peu à la fin de ce journal. Tu as peut-être une dernière brève à faire proposer, sinon je...
Simplement de dire que la campagne pour sortir du nucléaire qui était lancée, notamment par sortir du nucléaire, eh bien, qui va nous conduire jusqu'au triste anniversaire du 26 avril 1986, c'est-à-dire Tchernobyl, se poursuit un peu à travers la France et que des initiatives sont prises à Lyon comme ailleurs et que il faut effectivement le rappeler et puis faire que dans le prochain gouvernement, eh bien, on décide enfin l'arrêt immédiat du nucléaire.
Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Et nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Nos émissions continuent. Bonsoir.